Je vous en prie, madame.
Which delegates, I'm taking the floor today to commend your efforts in drawing our attention.
Merci. Je me félicite que vous ayez décidé d'évoquer donc la participation des femmes à la paix et à la sécurité internationale. Je suis moi-même l'un des porte-parole de l'émancipation des femmes et je sais, je suis convaincue qu'elles doivent mettre leur potentiel à profit. En effet, plus il y a de femmes dans les délégations, plus les résultats des négociations sont efficaces. Le premier accord international promouvant l'égalité des sexes est justement la Charte des Nations Unies. L'article 8 de cette charte précise que les Nations Unies n'imposeront pas de restrictions sur l'éligibilité des hommes et des femmes à participer à quoi que ce soit dans tous les organes des Nations Unies, quels qu'ils soient fêtiers ou subsidiaires. Et quelques 70 ans plus tard, eh bien, l'enceinte qui est la vôtre n'arrive pourtant pas à remettre au goût du jour son règlement intérieur après des semaines de consultations entamées il y a de cela plus de 18 mois. Cela nous laisse perplexes. Aujourd'hui, nous avons tendance à politiser un débat qui porte pourtant sur une question technique et qui ne porte pas sur le fond, sur laquelle nous nous sommes déjà mis d'accord il y a fort longtemps. Cela devrait nous faire remettre en question cette enceinte. Le siècle dernier, Marie Curie gagnait un prix Nobel. Le fait que on lui est donc attribué ce prix et non à elle et non pas à son mari, rendait hommage à tous les travaux qu'elle avait menés dans le domaine qui était le sien. Mais aujourd'hui, eh bien, Marie Curie est l'une des est membre d'une minorité de femmes à avoir gagné le prix Nobel, alors qu'elle avait pourtant découvert le polonium notamment. Un grand nombre de ces accomplissements scientifiques ont permis de faire avancer la recherche sur le long terme. Aujourd'hui, bien sûr, le désarmement nucléaire reste l'objectif principal de la conférence du désarmement. Et un an après avoir reçu le prix Nobel, Marie Curie a commencé à avoir des problèmes de santé, probablement sous l'effet donc, des rayons qu'elle avait elle-même étudiés, lesquels ont provoqué son cancer. Aujourd'hui, on parle son cancer, on parle aujourd'hui justement de rayons ionisants, de radiations ionisantes. C'est un phénomène extrêmement complexe qui a des effets disproportionnés sur les femmes. C'est ce que disent les scientifiques. Aujourd'hui, les femmes sont bien plus exposées à ces radiations et elles courent plus de risques d'en mourir que les hommes qui sont pourtant exposés au même taux de radiation. D'après les scientifiques, eh bien, les femmes ont deux fois plus de chances d'avoir un cancer ou une leucémie à cause de ces rayons. Ces derniers ont également des incidences sur leur immunité, sur leur fécondité, mais elles ont aussi des incidences sur leur génome à proprement parler. L'impact environnemental qu'ont ces radiations sur les sites de tests nucléaires sont tout à fait préoccupants. Et elles ont des conséquences sur les personnes vivant dans les zones contaminées. S'agissant des armes biologiques, l'UNIDIR a souligné que les variations, là encore, qu'il y avait beaucoup de variations donc, entre ce qui pouvait toucher la santé des hommes et des femmes. Les femmes peuvent faire des fausses couches et les hommes avoir des problèmes de fertilité sous les effets donc, de ces rayons. Pourtant, on ne parle pas de cette dimension-là dans la convention ou dans la conférence sur les armes biologiques. Pourtant, on devrait faire fond sur les connaissances scientifiques pour essayer donc de modifier l'utilisation des armes biologiques. Aujourd'hui, comme l'UNIDIR l'a d'ailleurs souligné également, on pourrait justement intégrer davantage l'égalité entre hommes et femmes pour mieux traiter ces questions et pour mieux identifier les groupes à risque. Les jeunes hommes, étant donné la place qu'ils occupent dans la société, courent 10 fois plus de risques d'être touchés par les armes à sous-munitions, d'où l'importance des programmes de sensibilisation. Et nous félicitons les États parties du TPNB d'avoir lancé une initiative donc en matière de sensibilisation. Nous devons donc donner une dimension au genre aux efforts que nous consentons dans le domaine du désarmement. Mais pour ce faire, nous devons garantir deux choses, la pleine participation des hommes et des femmes dans l'élaboration et la signature des accords, et la dimension sexo-spécifique de l'utilisation donc, des armes et des incidences qu'elles peuvent avoir. C'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre. Et nous aurons beau consentir tous les efforts du monde, ils resteront vains si nous ne tenons pas compte de ces deux dimensions. Nous devons donc tenir compte de ces deux réalités pour faire en sorte que nos efforts en matière de désarmement, de contrôle des armes et de non-prolifération deviennent une réalité. Pour conclure, eh bien, j'aimerais vous féliciter pour la façon avisée dont vous dirigez cette conférence et pour les recommandations que vous avez formulées.